Bonjour. Avec les attentats de Nice et de Conflans-Sainte-Honorine, la colère ou la haine se portent très bien sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et on sait que ce sont ces sentiments qui viralisent le plus sur Internet. Ces derniers mois, les réseaux sociaux se sont aussi enflammés en soutien à Didier Raoult et aux médecins et chercheurs qu'on dit rassuristes, ceux qui relativisent la pandémie de Covid-19 et qui sont perçus comme des ostracisés ou des antisystèmes, voire parfois comme des martyrs. Face à cette polarisation, à cette hystérisation, certains décident de quitter les réseaux sociaux. C'est le sujet de notre émission. Et justement, parce que nous traversons des moments terribles, des moments polarisants, nous allons en parler calmement, en profondeur, sans vaine polémique. Parce que c'est en réfléchissant tous ensemble, en échangeant sans acrimonie, qu'on peut, je crois, tenter de dépasser l'horreur de cette période, de ce moment que nous vivons. Alors, je vais co-animer cette émission avec Thibaut Prévost. Bonjour Thibaut.
Bonjour Emma.
Et nos invités sont le chercheur en sciences de l'information et de la communication, Olivier Hertzscheid, et l'essayiste et cinéaste, Paco Mthielman. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour messieurs. Nous recevons aujourd'hui deux observateurs et utilisateurs critiques de ces plateformes. Donc, Olivier Hertzscheid, d'abord, vous avez récemment publié Le Monde selon Zuckerberg, où vous chroniquez 15 ans de désenchantement collectif entre les utilisateurs et leurs plateformes. Vous chroniquez maintenant les intersections des mondes numériques et physiques sur votre blog, affordance.info. Et pour vous répondre, nous avons invité un autre regard singulier, celui de l'essayiste, poète et cinéaste Paco Mthielman. Bonjour.
Poète, c'est un bien grand mot. c'est pas moi qui me suis défini comme ça.
Et donc vous avez déserté les réseaux sociaux le 12 octobre dernier et vous chroniquez désormais votre sevrage de la grande Facebookerie et autres plateformes sur un blog à l'ancienne qui s'appelle Le Livre sans visage. Bienvenue à tous les deux.
Merci.
Alors on va donc parler des réseaux sociaux. Sont-ils de simples véhicules de la colère, de la haine? Sont-ils des amplificateurs? Sont-ils carrément des lieux de cristallisation, de production de cette colère? Depuis l'assassinat de Samuel Paty, les réseaux sociaux sont de nouveau sur la sellette. En cause, trois éléments qui ont circulé sur ces réseaux. La vidéo du père de la collégienne de Conflans-Sainte-Honorine, qui nomme Samuel Paty comme professeur voyou qu'il faut virer. Celle de l'intégriste islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui accompagnait dans sa démarche auprès de l'établissement le père de la dite collégienne. Et puis, il y a eu aussi ce fameux tweet de revendication de l'attentat par l'assassin de Samuel Paty, posté juste avant qu'il soit tué par les policiers. Alors, de manière générale, les réseaux sociaux sont souvent vilipendés sur les plateaux télé, surtout en ce moment. Alors voici quelques exemples récents avec dans l'ordre les journalistes Anne Sinclair, Caroline Fourest, l'urgentiste proche de Charlie, Patrick Peloux et notre ministre de l'Intérieur. On regarde.
On pouvait penser que les réseaux sociaux étaient l'ouverture, ils sont la fermeture, l'enfermement, un déversoir de haine, de violence, et où chacun se retrouve dans sa propre communauté comme si elle était pure et doit être purgée, effacée, le cancel culture ça existe, être effacée de toute voix discordante ou qui ne soient pas d'accord avec eux.
La violence que nous subissions, les tensions qu'il y a entre nous, la façon dont la haine nous déborde et nourrit nos interactions ne tombe pas du ciel. Elle tombe de Twitter et de Facebook. Elle vient des réseaux sociaux.
On est tous menacés, on a tous plein de rumeurs, on est pourchassés bien souvent par quelques-uns qui ont plusieurs comptes et pour se défendre, c'est impossible.
Nous pensons que les réseaux sociaux ne peuvent pas être la sauvagerie généralisée, le règne de l'anonymat, les menaces complaisantes à tout moment, relayées, vous l'avez dit, par des milliers de personnes.
Alors Olivier Hertzscheid, est-ce qu'ils ont raison, au fond, ces intervenants sur les plateaux télé?
Alors, est-ce qu'ils ont raison? À mon avis, plutôt non. Il faut distinguer deux réalités. Il y a une réalité qui est celle de la chambre d'écho et de l'effet d'audience que constituent ces réseaux sociaux. Ça, c'est absolument incontestable. Après, c'est comme souvent un problème une différence entre causalité et corrélation. C'est-à-dire qu'il y a eu des effets de corrélation entre ces vidéos qui ont circulé, qui ont été reprise là aussi par des grands comptes, sans aborder tout de suite la question de l'anonymat, mais à partir du moment donc, où on a ce bruit qui monte, dessus vont venir effectivement s'agréger des dynamiques qui sont des dynamiques de dénonciation, de colère, d'indignation et effectivement parfois aussi d'appel à la haine. Une fois qu'on a posé ça, expliquer que le problème de manière causale vient des réseaux sociaux, c'est franchir un pas qui me semble être dangereux et tout à fait faux. C'est-à-dire que Samuel Paty n'a pas été assassiné par les réseaux sociaux, il a été tué par un islamiste dont on connaît le nom, qui avait sur lui ses papiers d'identité. Les appels à la haine existent sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de nier une réalité, hein, mais encore une fois, ils participent d'une chambre d'écho sociale et médiatique qui est beaucoup plus large. Et il ne faut jamais oublier que chaque fois que les médias parlent des réseaux sociaux, ils oublient de parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on observe ces pics effectivement d'incitation à la haine, de viralité sur les réseaux sociaux, ces pics ils sont toujours corrélés au fait que des médias, immédiatement avant, en ont parlé et en ont fait effectivement leur chou gras sur les plateaux. Donc il y a deux mondes qui se nourrissent. Il ne s'agit pas d'exempter les réseaux sociaux de toute responsabilité, on aura je pense l'occasion d'y revenir, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des corrélations et pas de causalité et que l'écosystème des médias et l'écosystème des réseaux sociaux sont deux écosystèmes extrêmement poreux et qui se nourrissent l'un l'autre.
Justement, vous parlez de cette relation qui existe entre ces deux mondes médiatiques et des réseaux sociaux. Vous aurez remarqué l'utilisation pour parler des réseaux sociaux du mot « sauvagerie » par Gérald Darmanin, qui rappelle justement ce lexique utilisé pour parler du monde physique dans les médias, à savoir de leur sauvagement. Et vous aviez fait un parallèle hyper intéressant sur la réponse gouvernementale qui a apporté à la fois pour policer les réseaux sociaux comme pour policer l'espace public.
Oui, c'est-à-dire que enfin, sur les. Alors, j'ai oublié le parallèle que j'ai établi, mais en tout cas.
C'était avec les quartiers populaires, en fait, Olivier Hirschfeld. Hein, c'était avec les zones, enfin, l'urbanisme des quartiers populaires.
Oui, c'est-à-dire. Oui, pardon, merci de rafraîchir ma mémoire. C'est-à-dire qu'en effet, il y a. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on observe, c'est qu'on a bâti. Facebook est une immense tour qui est peuplée par 2,7 milliards d'individus. Et donc, ce qu'on nous a vendu. Comme à l'image effectivement de la construction des premiers quartiers populaires en périphérie des villes, ce qu'on nous a vendu comme proximité devient mécaniquement un effet de promiscuité. C'est-à-dire que quand vous entassez des gens dans des grandes bars, ils ne deviennent pas plus proches, ils copient les uns les autres et très vite on atteint des situations de dialogue qui sont structurellement, architecturalement insupportables. Et du coup, il est si j'ose dire, malheureusement presque logique que dans ces architectures techniques-là, il y ait des effets de violence structurelle, il y ait des effets d'appel à la haine, là aussi structurelle. Cela ne vient pas du fait que quand les gens seraient sur les réseaux sociaux, ils seraient plus mauvais que quand ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Cela vient, à mon sens en tout cas, de l'architecture technique qui effectivement produit, alors moi je n'aime pas du tout, je ne reprendrai pas le terme d'ensauvagement, mais qui produit en tout cas des formes de promiscuité qui nourrissent des interactions sociales dégradées, violentes, qui véhiculent du ressenti et de la suspicion de l'autre. Ouais.
Et Paco, tellement ce regard de la télé très critique sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous inspire au fond ?
Ah bah moi ça me fait sourire parce que j'essaye d'être gentil mais sinon ça me ferait rire un peu méchamment dans le sens où ils sont quand même comiques en fait, ils veulent juste avoir le monopole de la sauvagerie. Pour moi c'est ça que je vois quand la télévision critique les réseaux sociaux, en fait c'est qu'ils voudraient être le seul à pouvoir faire comme les réseaux sociaux. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit quand même un groupe de bisounours qui parle à ce moment-là. Donc, quand on voit, enfin, moi je la regarde pas. De toute façon, en fait, je regarde pas la télévision. Hein, donc,
j'en vois des extraits.
Mais quand je vois des extraits, je suis halluciné par l'intensité de leur colère et l'espèce d'excitation systématique qu'il y a sur tous les sujets, en fait, à essayer d'être le plus extrême possible dans leur position.
Mais l'autre point... Oui, pardon. Non, allez-y, allez-y.
L'autre point, c'est que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils y foutent ? Désolé de parler aussi vulgairement, mais par exemple, je peux me tromper, mais Caroline Foest, elle a des comptes. Elle doit avoir des comptes Twitter ou Facebook. La plupart des gens qui critiquent les réseaux sociaux, en fait, dans les médias, ils sont aussi Donc, est-ce qu'ils voudraient qu'on enlève beaucoup d'utilisateurs pour qu'en fait, quand on aille sur Facebook, en fait, on voit parler les chroniqueurs télévisuels et radiophoniques ?
Alors, sachant peut-être. Quand même que la vidéo de la Discord, enfin, la vidéo qui circule, n'a pas circulé à la télé quand même. Enfin, il y a une petite différence.
Ah oui, je suis d'accord, c'est vrai. Ouais.
mais alors, à cette occasion, dans les suites de l'assassinat de Samuel Paty, la loi Avia est revenue un peu en grâce dans les conversations. Thibault, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qu'est-ce que cette loi Avia était censée apporter, en fait ?
Oui, on rappelait tout à l'heure, justement, les réponses gouvernementales suite à la vidéo. Et bon, la loi Avia, c'est une loi qui rarement une telle loi aura fait autant consensus contre elle. Pourtant, à la base, elle avait tout pour plaire à la droite, cette loi, parce qu'elle proposait de lutter contre la haine sur Internet en obligeant les plateformes, donc les Google, Facebook, YouTube et les autres, à modérer les contenus illicites en 24 heures, voire en une heure, pour certains contenus liés au terrorisme et à la pédopornographie. Elle avait été votée le 13 mai dernier, censurée presque intégralement par le Conseil constitutionnel le 18 juin, parce que le Conseil constitutionnel considérait qu'un système pareil serait une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression. Et pourtant, dans les jours qui ont suivi l'attaque contre Samuel Paty, on a vu se former une sorte d'équipe de réhabilitation de la loi Avia au nom de plus de sécurisation des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour certains, le fait qu'elle soit contraire à la Constitution n'est même plus un souci. Écoutez par exemple Christophe Barbier, il a trouvé la solution.
Il faut ensuite, et ça peut être assez rapide, relancer la loi Avia, qui a été censurée quasiment intégralement par le Conseil constitutionnel avant l'été, qu'on peut très bien remettre sur l'établi en changeant, s'il le faut, la Constitution. Le texte peut passer très vite à l'Assemblée et au Sénat, on fait un congrès, mais profitons de cette tragédie, si j'ose dire, pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que les grands opérateurs des réseaux sociaux auraient entre 1 heure et 24 heures, selon les contenus, pour faire disparaître les contenus haineux, et sinon, eux seraient considérés comme responsables, voire complices. Cette loi a été cassée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Il faut maintenant la faire repasser au nom aussi de la liberté d'expression.
Quand vous voyez notamment que la loi Avia
du nom de la députée En marche.
Qui a été quasiment censuré en très grande partie par le Conseil constitutionnel sur ces questions-là, il nous faut changer la Constitution.
Je pense qu'on pourra discuter de la loi Avia, mais la preuve est faite que la loi Avia attaquait le problème des réseaux et qu'elle a été toquée ou retoquée ou très diminuée en tout cas à cause d'une Constitution qui est inapplicable. Donc il faut s'adapter à cette nouvelle guerre. Hein.
Bon, alors la loi Avia, supposons qu'on ait changé la Constitution, supposons qu'on ait pu faire passer cette loi, est-ce qu'on peut dire que oui, grâce à la loi Avia, cette fameuse vidéo aurait été supprimée du réseau Olivier Hertzschild ?
Non, elle n'aurait pas été, puisque... alors, bon, je vais essayer d'être court, mais sur la loi Avia, ça mériterait une émission rien que là-dessus, mais l'idée, ouais. En fait, c'est que... dans la philosophie, si je veux dire, de cette loi Avia, il s'agissait d'adresser aux plateformes un message qui faisait d'elles à la fois des officiers de police et de justice. C'est-à-dire qu'elles avaient cette capacité, là, je schématise un petit peu, mais d'intervenir sur n'importe quel type de contenu, signalé ou non d'ailleurs, pour le faire effectivement disparaître. Ce qui, un, n'est matériellement pas possible de toute façon, enfin, à l'échelle de la volumétrie des contenus qui circulent, et ce qui, deux, ne fonctionne pas, puisque malheureusement, et là aussi c'est documenté, qu'il s'agisse de la vidéo, des vidéos autour de l'assassinat de Samuel Paty, mais on l'avait vu avant avec la tuerie de Christchurch, y compris quand ces vidéos sont immédiatement et massivement signalées, ça ne suffit malheureusement pas à les faire disparaître. Ça ne suffit pas à les faire disparaître. Pourquoi ? Parce que là où les plateformes sont éminemment responsables, c'est qu'elles elles facilitent la fluidité de la dissémination de ces vidéos.
C'est-à-dire,
et là, les plateformes... Pardon ?
C'est-à-dire, j'ai peur de ne pas avoir compris.
C'est-à-dire qu'en fait, il est très facile, quand on est exposé à une vidéo en tant qu'utilisateur, de repartager cette vidéo, de la republier sans avoir à se poser la question de l'intentionnalité de notre propre partage. Je reviens juste sur l'exemple des vidéos partagées dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty. La grande mosquée de Pantin a republié la vidéo de ce père dont la fille disait qu'elle avait assisté au cours de Samuel Paty et qu'elle avait été choquée. La grande mosquée de Pantin, en republiant cette vidéo, lui a donné une audience absolument considérable, qui n'était pas du tout cette audience initiale de la vidéo, qui comptait quelques dizaines de likes et 3 commentaires. Dès qu'elle a été republiée par la grande mosquée de Pantin, elle a touché une audience considérable. La grande mosquée de Pantin a supprimé ensuite cette vidéo a nié dans un premier temps l'avoir republié et s'est ensuite excusé de l'avoir fait. Et dans l'argumentaire des personnes en charge de la page, il disait ben, on l'a republié parce que bon, voilà, finalement, on ne s'est pas aperçu que, puis c'était facile de la republier et ça concernait notre communauté. Donc, moi, ce pourquoi je milite, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut que les réseaux sociaux, dans la manière même dont ils autorisent l'activité de partage et de rendu public, installent des temporalités, de la friction. C'est-à-dire qu'avant d'appuyer sur un bouton de partage, de like, de retweet, on ait ce petit temps qui fait qu'on n'est plus dans un acte réflexe, mais qu'on est dans une activité, si je veux dire, éditoriale, de publication un petit peu réfléchie. Et ça, c'est la responsabilité des réseaux sociaux. Et ça, la loi Avia, en plus de poser les mauvaises questions sur l'anonymat, sur la responsabilité éditoriale des plateformes, n'adresse pas du tout cet enjeu-là, qui, à mon avis, est un enjeu majeur.
Alors, est-ce que ça veut dire que c'est ce que fait Twitter en ce moment? C'est-à-dire, Twitter en ce moment pose la question, est-ce que vous avez bien lu cet article que vous apprêtez à retweeter, en gros? Est-ce que c'est ça, à ça que vous faites allusion, comme type de dispositif?
Ouais, c'est ce que Twitter est en train de mettre en place dans le cadre des élections américaines, pour vous inciter, pas vous obliger, hein, heureusement ils ne le peuvent pas, mais pour vous inciter, en tout cas, avant d'appuyer sur le bouton et avant d'avoir... tous les réseaux sociaux, ils sont construits sur une économie attentionnelle qui est dehors de la pulsion. Ce qui nourrit ces grandes machines-là, c'est le fait qu'on soit en capacité, qu'on soit installé dans une situation où on va partager sans se poser la question de savoir ce que l'on partage. On va partager parce que ça nous fait réagir, parce que ça nous met en colère, parce que ça nous semble une situation injuste. Et donc, on joue sur des mécanismes pulsionnels dont on sait, ça a été étudié, ils mettent notre cerveau en otage automatique. Donc, quelque chose qui nous paraît injuste, et bien on le publie sans se poser la question de savoir si c'est vraiment injuste. Et donc, le simple fait, dans l'interface, de limiter, par exemple, le nombre de retweets, ou de, avant de retweeter un contenu, de demander si on l'a bien lu, ça suffit potentiellement, ça ne va pas régler tous les problèmes, mais ça suffit potentiellement à désamorcer 90% des partages qui sont des partages irréfléchis.
Paco, vous avez souri en voyant le tweet, le signalement de Twitter.
Oui, oui. Alors, j'ai souri par rapport à ça parce que ça, l'idée m'amuse qu'on force les gens à lire quelque chose avant de le partager, par rapport à la psychologie humaine. Mais ce à quoi ça me fait penser, c'est à deux choses. Je n'ai pas envie de faire un tunnel mais, par rapport à cette loi Avia, mais je vais juste essayer de faire un pas de côté. Le premier de l'émission. Je ne sais pas si j'en ferai beaucoup, mais je vais au moins essayer d'en faire un. Pour avoir beaucoup travaillé sur les gnostiques, qui sont ma grande passion, les gnostiques, ce sont ces, on va dire, considérés comme hérétiques des premiers siècles de l'ère chrétienne, ceux qui voulaient suivre le Christ et pas l'Église, et qui ont été, dans un premier temps, réfutés par les pères de l'Église, dans un deuxième temps persécutés, et dans un troisième temps, avec l'empereur Constantin, exterminés. On a détruit l'ensemble de leurs textes, mais ça n'a pas empêché des gens par la suite de se référer à eux à travers les réfutations. Alors évidemment, je ne compare pas, la haine sur Facebook à la plus belle hérésie que je connaisse, les gnostiques, et probablement des gens merveilleux. Mais ce à quoi je pense, c'est que c'est l'idée qu'on puisse empêcher une idée de se diffuser en empêchant son expression. Je pense que c'est une idée extrêmement naïve. Et je ne crois pas du tout, en réalité, à l'efficacité d'une telle pratique. Mmh. À savoir si on contrôle les propos qui sont tenus dans la sphère publique, si on a des mots-clés, je ne sais pas exactement comment ils veulent faire, peut-être avec des mots-clés, genre tuer quelqu'un, et là, le tweet ne passe pas. Je n'arrive pas du tout à voir. Ou alors, ils auraient des gens qui, 24 heures sur 24, regarderaient et diraient « Ouh là là, celui-là, ça a l'air d'être un mec qui veut tuer quelqu'un, on va retirer son tweet. »
Ça existe déjà, ces dispositifs existent déjà. Thibaut, est-ce que tu veux nous en dire un mot
Oui. Déjà, ça existe déjà, effectivement. Il y a déjà des modérations a priori qui sont effectuées par les plateformes et qui sont automatiques. Mais il y a aussi une autre approche, Olivier, qui est celle de contrôler le niveau de viralité du contenu, de laisser les gens poster, ensuite de réaliser qu'un contenu devient viral et à ce moment-là, bloquer la capacité à faire effet boule de neige, à toucher encore plus de monde. C'est ce qu'a fait, par exemple, WhatsApp pendant la crise du Covid. Et ils ont réalisé qu'ils avaient une baisse de 70% des informations. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche?
Oui.
Alors, moi, cette approche, pardon.
Vas-y.
Olivier.
Cette approche, elle me paraît être la bonne, alors au milieu de tout un tas d'autres choses. Hein, c'est-à-dire que la première chose à faire, ce serait, par exemple, de doter la plateforme Pharos, qui est la plateforme gouvernementale de lutte contre la haine en ligne, de la doter de moyens qui sont des moyens réels et qui ne sont pas des moyens anecdotiques à l'échelle des problèmes qu'on prétend résoudre. Pharos, c'est 27 personnes. Facebook, c'est 2,7 milliards d'individus. Donc, ne serait-ce que cette dissymétrie, elle est à elle seule la cause de bien des mots. Mais pour revenir à ce qu'on disait, oui, le fait d'arriver à limiter les chaînes de contamination virale, puisqu'on est dans une période où la métaphore du virus c'était là s'imposer, le fait de casser ces chaînes de contamination virale dans ces espaces qui ont une particularité, c'est-à-dire que ce sont à la fois des espaces privés, puisqu'on s'y inscrit pour pouvoir parler, mais ce sont aussi des espaces semi-publics, puisque de fait, les audiences qui sont capables de rassembler ne peuvent plus être assimilées à des audiences privées. Et donc, dans ces espaces-là, pour casser ces chaînes de contamination, il faut introduire de la friction, il faut introduire du temps, il faut introduire ce petit espace qui, effectivement, va faire qu'on passe une activité de publication qui n'est plus un arc réflexe à une activité de publication qui est quelque chose d'un minima conscientisé. Voilà. Et encore une fois, ça ne réglera pas la totalité des problèmes, mais là, pour le coup, la responsabilité des plateformes, elle me semble mieux adressée que quand on prétend soit les rendre responsables une heure après publication de tout ce qui peut s'y dire et s'y publier. Et c'est trop tard. Ce qui est très étonnant, c'est, après je me tais, je laisse la parole, mais très récemment, toujours dans le cadre de l'élection américaine, Mark Zuckerberg, dans une interview à Bloomberg, je crois, a expliqué qu'avec le chaos qui sentait venir, il a décrit tout ce qu'il était en capacité de faire sur Facebook. Et il dit, c'est pas très compliqué quand on verra qu'effectivement, il y a des contenus qui sont susceptibles de dégager une très grande viralité, mais on va freiner un petit peu cette viralité, on va la contraindre, on va la garder un petit peu sous l'étouffoir. C'est-à-dire qu'il a donné finalement le mode d'emploi de ce qu'on lui demande de faire depuis que Facebook existe et qu'il s'est toujours refusé à faire au motif que les cordons de la bourse sont la loi et que effectivement c'est une plateforme qui le tient.
C'est qu'ils sont en capacité technique de le faire depuis longtemps, en fait. Ils ont un contrôle absolument sur ces logiques-là.
Alors, il y a cette manière, effectivement, de ralentir la viralité qui est tentée, notamment par les plateformes elles-mêmes. Et puis, il y a tout autre chose pour freiner les discours de haine, c'est l'action gouvernementale sur les réseaux sociaux. Alors, Marlène Schiappa a expliqué l'autre jour qu'ils allaient lancer une campagne de contre-propagande, ce sont ces termes, sur les réseaux sociaux pour lutter contre la radicalisation. Et ça nous a rappelé, Thibault, la campagne Stop Djihadisme de 2015, ouais. Qui ressemblait furieusement à ça.
Absolument. On fait du neuf avec du vieux. Stop Djihadiste, les internets français s'en souviennent encore. On est en 2015, juste après les attentats de Charlie. La France se rend compte qu'elle a un gros problème, c'est que la propagande de l'État islamique sert à radicaliser des gens sur Internet. Du coup, Manuel Valls décide de lancer un site de contre-propagande avec une campagne vidéo pour répondre aux recruteurs de l'État islamique. Il y a un formulaire pour signaler une radicalisation, il y a déjà un numéro vert, comme quoi on reprend encore ces éléments, et plein d'infos sur les signaux faibles de radicalisation. Un an plus tard seulement, le système va créer des comptes Facebook et Twitter, fonctionner pendant 3 ans avec un succès, on va dire, assez relatif. Et voilà à quoi ressemblait la première campagne vidéo.
Thibault.
Ouais, bah donc là, l'approche était visiblement de contrer la viralité des contenus de l'État islamique en reprenant les mêmes éléments esthétiques, les mêmes éléments de narration. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là ?
Alors, moi, je pense surtout que le problème, c'est qui parle. Si c'est les membres du gouvernement qui décident de faire ces choses-là ou qui s'attribuent en tout cas l'idée de créer la contre-propagande, c'est-à-dire Marlène Schiappa, il y a un problème, c'est que la plupart des membres du gouvernement sont détestés. Ils sont détestés pas seulement des radicalisés, ils sont détestés d'une grande partie de la population. Donc ce que je leur proposerais, mais vraiment, alors là je suis très sérieux, c'est de dire contre 100 déradicalisés, je quitte mon job. Ou contre 200 des radicalisés, 200 personnes qui s'inscrivent et qui disent « j'arrête, je quitte mon job ». Et je suis sûr que là, ça aurait des effets extraordinaires. Par exemple, Manuel Valls s'y promettait, en échange de 10 ans sans attentat, de ne plus jamais revenir en France pour se présenter. Mais je suis certain qu'on serait débarrassé. Alors là, mais vraiment...
Au-delà de ce que vous proposez, pardon Olivier, oui, vous mettez le doigt sur quelque chose de très vrai. C'est que, en fait, dans les rapports d'activité de ce dispositif-là, ce qui a été pointé du doigt le plus, c'est qu'en fait, le fait que ça vienne du gouvernement décrédibilisait le message et rendait le message impossible à
inopérant.
Inopérant, voilà.
Ouais, c'est ça,
et
ouais.
Certainement pas viral.
Et d'ailleurs, ça n'a pas marché.
Ouais.
Olivier, votre opinion sur cette campagne ?
Oui, il y a trois problèmes, effectivement. Le premier problème, c'est un problème circonstanciel, c'est-à-dire qu'on réactive ce dispositif très concrètement parce que Marlène Schiappa a récupéré dans son cabinet la personne qui avait développé le dispositif à l'époque. C'est malheureusement un petit peu aussi, alors, bien sûr, il y a un effet de circonstance qui est celui des attentats, hein, mais c'est aussi malheureusement ce petit mercato entre cabinet ministériel. Ensuite, le deuxième problème, c'est que on s'adresse à des gens qui donc il s'agit de déconstruire des croyances. Et quand on veut déconstruire des croyances, il y a un biais qui est bien connu en psychologie cognitive qui s'appelle l'écho de croyance, qui fait qu'on continue de croire des choses même en sachant qu'elles sont fausses ou qu'elles nous sont survendues. C'est-à-dire que le fait de présenter des vidéos contre-discours sur le djihadisme ne va pas convaincre des gens qui sont engagés dans le djihadisme de se désengager. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont rien faire. Hein. Et le troisième problème, c'est que, encore une fois, l'efficacité première des vidéos djihadistes, elle vient de leur viralité intrinsèque, c'est-à-dire qu'elles s'adressent à des convaincus, elles touchent une audience qui est déjà captée, si j'ose dire, et ensuite, elles viennent de la manière dont les systèmes de recommandation. On revient sur ce qu'on disait avant, les systèmes de recommandation de YouTube, de Facebook ou d'autres architectures techniques les mettent en permanence en avant parce que ce sont des vidéos qui vont générer du partage, qui vont générer des commentaires, qui vont générer de l'audience. Et donc, là, encore une fois, le bon moyen, c'est de travailler sur ces effets d'audience, sur la manière de limiter sans les interdire, parce que les interdire produiraient l'effet exactement inverse, bien sûr, comme toute interdiction. Mais de limiter leur potentiel viral. Et là, encore une fois, les plateformes, non seulement elles sont parfaitement conscientes du problème, non seulement il y a plein d'anciens ingénieurs de chez Google et YouTube notamment qui ont écrit des livres entiers à ce sujet-là sur la responsabilité éminente qui qu'eux-mêmes avaient mis en place quand ils travaillaient pour ces boîtes-là. Et c'est à mon avis une des clés principales de ce problème-là. Mais à part ça, ça ne marchera pas dans les contre-discours vidéo.
Alors, on a eu l'idée de l'émission parce que, une des sources de cette émission, c'est que je suis tombée sur votre post Facebook, Pacôme, qui annonçait votre intention de quitter les réseaux sociaux, et notamment Facebook. Post que vous avez depuis fait migrer sur votre blog, puisque vous n'avez plus de compte Facebook depuis le 12 octobre, votre blog qu'on voit ici et qui se nomme ironiquement Le livre sans visage, donc Facebook étant le livre des visages. Alors vous avez nommé votre blog en référence à un réseau que vous quittez. Racontez-nous cette pirouette.
Oh, ça, c'est très long. J'ai pas du tout envie de.
Alors plutôt, comment se passe le sevrage ? Ce sera plutôt ça ma question.
Mais très bien, vraiment très bien. Très bien, c'est assez passionnant. C'est-à-dire, si vous voulez, pour moi, c'était comme une histoire d'amour. Mais ça, je l'ai expliqué. C'est assez lourd hein, de le redire encore une fois, mais...
Non, mais les Asinotes n'ont pas lu votre poste, alors.
Bien sûr. Donc, je vais le raconter. Je vais le raconter avec toute l'obscénité que ça va générer, mais je suis désolé. Alors, voilà. En gros, j'étais un utilisateur absolument fervent de Facebook pendant 12 ans, et je ne regrette pas du tout. Hein, je ne suis pas en train de dire... J'ai fait une connerie, c'est épouvantable, etc. Je recommencerai jamais et tout ça. Enfin, si, je recommencerai jamais. Mais je recommencerai jamais parce que pour moi, l'expérience était très intéressante, mais ça suffisait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, on va dire que la façon dont ça a modifié ma propre psyché m'a inquiété. Et je pense que c'est quelque chose que d'autres gens que moi peuvent ressentir. En tout cas, beaucoup d'autres gens m'en ont parlé ensuite, évidemment, puisque à partir du moment où on fait un acte comme ça, public, sur Facebook, vis-à-vis de tous ses amis Facebook et ses abonnés, de dire « voilà, je m'en vais, et voilà pourquoi je m'en vais », il y a d'autres personnes qui peuvent s'y retrouver, quand bien même elles ne s'en vont pas. Et puis moi, mon idée, ce n'est pas de dire à tout le monde « cassez-vous hein », c'est d'expliquer pourquoi moi, je m'en vais, mais un peu, comment dire, comme dans les 70, peut-être on partait à Katmandou. C'est peut-être un peu la même idée, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on étouffe.
Donc on cherche un ailleurs.
Il y a un moment où on étouffe. Hein ?
On cherche un ailleurs, en fait.
On cherche un ailleurs. On cherche vraiment un ailleurs. Et ce n'est pas un ailleurs qui est pour moi dans le passé. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'idée. Mon idée, ce n'est pas du tout c'était mieux avant. Ce n'est pas ça. C'est plutôt le monde d'avant s'est réinstallé lentement mais sûrement dans nos psychés actuelles. En fait, on est parti dans Facebook avec nous-mêmes. Et si dans un premier temps, ce que j'ai pu voir...
Et pour échapper au mainstream aussi, et pour échapper aux médias mainstream.
Exactement. On est parti pour échapper au mainstream, pour recréer quelque chose qui serait beaucoup plus de l'ordre du partage anarchique, ou une espèce d'univers plus libertaire, même dans cette manière de parler. Et finalement, progressivement, j'ai eu l'impression que tout ce qui était de l'ordre de l'algorithmie propre à Facebook, m'était rentré progressivement en moi. Et puis aussi, je regardais sur, mettons, les gens que j'aime le plus. Et est-ce que les gens que j'aime le plus, ce que je préférais en eux, c'était ce que je voyais sur les réseaux sociaux, de moins en moins. Or, pendant un moment, oui, beaucoup. J'étais très content de les voir agir et ça me faisait beaucoup rire, ça me passionnait et tout ça. Et puis, alors, ça se joue à plein de niveaux. Le premier niveau, je dirais, pour parler médias, oui, au départ, moi, j'ai toujours eu un très grand dégoût pour, on va dire, l'univers plateau télé chroniqueur. Ça, c'est un truc, ça ne l'a jamais fait pour moi. Donc, c'est quelque chose qui, je veux dire, j'ai pas de télé, j'ai un moniteur pour voir des films.
Mais vous avez eu l'impression que Facebook reproduisait ça, finalement.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en gros, progressivement, finalement... Le même côté toutologue se reproduisait sur Facebook exactement comme il se produisait dans les médias, c'est-à-dire que ce qui est pour moi complètement acceptable et normal et drôle hein, quand on est entre amis autour d'une table, le voir soudain comme une prise de parole publique me pose beaucoup plus de problèmes. Alors là, je ne veux pas empiéter sur le moment sur le coronavirus parce que je sais qu'on va en parler. Ouais. Mais enfin, si vous voulez, moi, mon éclat de rire, c'était un éclat de rire mais avec une forme de tristesse. C'était de voir, par exemple... un groupe de critiques de cinéma qui parlait du coronavirus, un groupe de dessinateurs de bande dessinée qui parlait du coronavirus, un groupe de musiciens ou critiques de musique qui parlait du coronavirus.
Qui parlait même de la chloroquine. Hein.
Voilà, c'est ça, de l'hydrochloroquine. C'était tous devenus des épidémiologues. Et alors, tout ça, c'est dommage. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que c'est, dans un premier temps, si vous voulez, le problème par rapport à des personnes qui font des livres, des disques, des films, vis-à-vis des médias. De toute façon, ils sont obligés plus ou moins d'inventer une persona des médias. Ils le font plus ou moins bien, avec plus ou moins de style, plus ou moins de joie, plus ou moins de naturel. Mais bon, il y a toujours le besoin de créer un petit masque. Et alors soudain, avec les réseaux sociaux, il y avait une fusion complète entre le masque et le visage, si vous voulez. Il y avait une indistinction et ça devenait très compliqué. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment... un homme public qui n'est pas une célébrité, hein, qui n'est pas non plus Johnny Hallyday ou je ne sais pas quoi, un homme politique, mais une personne publique, même à un niveau underground, met des photos de sa famille, parce qu'il veut la partager avec ses amis ou parce qu'il veut la partager avec son public. Vous voyez ? Et donc, du coup, ça devient très, très bizarre, la fusion du privé et du public.
On s'est dissous on se dissout dans notre auto-médiatisation. On n'est plus que des médias de nous-mêmes. Est-ce que c'est ça ?
Et un petit peu, ouais. Il y a un truc, ça, c'est un risque. Je ne dis pas que ça arrive sur les autres. Moi, je l'ai senti pour moi-même, en tout cas. Comme j'ai senti, je demande si... Je demande aux spectateurs d'Arrêt sur image à la fois la plus grande pitié et en même temps la plus grande sincérité. J'ai senti pour moi l'intensité du pouce bleu, vous voyez, c'est-à-dire le like. C'est-à-dire au bout d'un moment, à partir de quel moment on poste quelque chose parce qu'on a vraiment envie de le partager, à partir de quel moment on se dit « celui-là, il va générer du like, alors je vais peut-être le passer en premier ». Et aussi au niveau des... Et puis après, ça, ce qui est terrible, c'est quand ça commence à rentrer au niveau des idées. C'est-à-dire que, pour prendre mon propre exemple, hein, disons que, bon, vous avez compris depuis le début de l'émission, je ne suis pas un fanatique des hommes politiques. Mais ce n'est pas le centre de ma préoccupation. C'est-à-dire que j'y pense normalement assez peu. Mais le fait de faire des posts, mettons, qui se moquent des hommes politiques, comme un amuseur, quoi.
Et que ça suscite même du si like, met... c'est ça ? Et que ça suscite...
Beaucoup, mais infiniment plus, mettons, que si vous faites quelque chose de nuancé, complexe, sérieux, sur n'importe quel sujet, ou mettons que vous partagez quelque chose que vous trouvez absolument extraordinaire, mais qui va prendre 2 heures à lire ou à voir, un document.
Donc finalement, vous avez des centres d'intérêt qui ne sont pas les vôtres à l'origine, hein, c'est un peu ça. Et donc vous vous inventez un nouveau moi avec des centres d'intérêt qui ne sont pas fondamentalement ceux qui vous intéressent le plus.
Sans être non plus dans le... Évidemment, sans être dans la pure posture, mais disons que ça... Ça devient un milieu. C'est-à-dire, si vous êtes dans un milieu, vous travaillez dans si dans votre milieu professionnel, le seul point commun que vous avez avec les gens de votre milieu professionnel, c'est votre détestation de Macron. Mais en fond, vous êtes, mettons, un fan de Bossa Nova. Mais il n'y a personne qui parle de Bossa Nova autour de vous. Bah, vous n'allez pas venir au boulot en disant « J'ai entendu un extraordinaire enregistrement hier de Antonio Carlos Jobim ». Vous allez dire, ah putain, t'as vu hier Macron, la connerie qu'il a dite. Eh bien, le problème, c'est que ce qui est tout à fait normal dans un milieu, ce qui est la moindre des choses, vous n'allez pas faire chier le monde avec vos obsessions non plus. Là, vous êtes sur un espace qui est un espace très, très, très intermédiaire, qui est en même temps la construction d'une aventure personnelle ou l'exploration d'une aventure intellectuelle et en même temps un milieu de socialisation. Et donc, du coup, à partir de quel moment vous arrivez à garder l'équilibre ? À partir de quel moment vous lâchez prise parce que vous vous dites « Ben non, mais moi, je ne vais pas les emmerder avec ce truc, ça ne me concerne que moi. »
J'aimerais bien entendre Olivier Hertzschild là-dessus, sur le pouce bleu qui fait que tout d'un coup, on a des préoccupations qui n'étaient pas les nôtres, la manière dont finalement notre personnalité se transforme malgré nous. Comment vous voyez cette analyse de Pacôme ?
C'est une analyse qui est plus à bien des égards. Il y a trois choses de mon point de vue. Le premier point, et pas comme on a parlé, c'est comment fait-on pour tenir un discours privé dans un espace qui est insincèrement public. C'est-à-dire que quand on tient des discours qui relèvent du privé sur Facebook, on sent bien qu'on n'est pas vraiment dans un espace public, qu'on n'est pas dehors sur une place de mairie, mais on sent bien qu'on va toucher un public. Et du coup, effectivement, ce qu'on déploie par ailleurs dans toute situation de communication non maîtrisée, c'est-à-dire qu'on se protège en essayant de mettre en avant des idées dont on sait qu'elles obtiendront un acquérant plutôt général, et en attendant effectivement parfois à ne pas parler, comme le disait, de Bossa Nova. Donc il y a une forme de métabolisation dans l'usage qu'on a de ces réseaux sociaux qui fait que qui n'est pas spécifique à ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que quel que soit le dispositif qu'on observe, on pourrait faire la même chose avec un plateau télé, en apprenant à utiliser le dispositif nous enferme quelque part. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris... nous mange un petit peu, ouais. Une fois qu'on a compris que tel poste allait générer plus d'interactions parce que on nous parlait de tel ou tel sujet et qu'on en avait fait l'expérience, encore une fois, physique précédemment, eh bien, on sait comment marche le système, et donc le choix, c'est plus qu'est-ce que j'ai à dire, mais est-ce que je dis des choses qui vont m'installer comme une personnalité remarquable dans ce système-là, ou est-ce que je vais à dessein décrocher, et rester sur ma ligne et de ne parler que des choses qui m'intéressent sans aller à la conquête d'une audience. Donc voilà, c'est un dispositif qui, une fois qu'on en a compris les vices, soit effectivement on fait le choix de pas comme, c'est-à-dire on en sort parce qu'il ne nous apporte rien, et il biaise notre propre sincérité, soit on instrumentalise à son tour le dispositif en essayant de garder cette vision toujours compliquée. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, par exemple, avec l'usage que j'ai avec mes étudiants. Bon, moi, j'ai pas quitté Facebook, même si je suis un de ses contempteurs réguliers. Mais
vous avez dit pourquoi je ne quitte pas Facebook, parce que j'en ai besoin professionnellement. J'ai besoin de l'analyser, au fond, de le vivre.
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un terrain scientifique. Donc, c'est aussi un petit peu un prétexte. Hein. Ça m'arrange bien que ce soit un terrain scientifique parfois. Mais blague à part, ce sont des systèmes. Et ça, c'est un vrai sujet. Pour le coup, tout est sérieux, sont des systèmes sur lesquels on ne peut pas produire des discours critiques cohérents, des discours scientifiques élaborés, si on ne pratique aucune forme d'observation participante. C'est-à-dire que pour comprendre ce que c'est qu'un phénomène de viralité, pour comprendre ce que c'est qu'un contenu qu'on va poster à 23 heures, fatigué avant d'aller se coucher, et qui, au réveil, va avoir 250 likes qui sont tombés dessus, il faut vraiment métaboliser ces expériences-là. Et à partir de là, on peut essayer de démonter, d'expliquer, de voir comment on aurait pu faire autrement, de voir ce que ça procure aussi. Et donc, on a besoin, nous, scientifiques, sociologues, spécialistes de ce que vous voudrez, on a besoin, parce que Facebook ne met pas ses données à disposition, et refuse de mettre ses données à disposition, notamment sur toute la partie ciblage publicitaire, ciblage politique. Là aussi, si on veut mesurer l'impact et l'effet sur l'opinion et sur notre propre opinion que ces plateformes peuvent avoir, on a malheureusement, j'ai envie de dire, pas d'autre choix postural que de s'y installer soi-même et d'essayer de s'y observer en train d'interagir.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que l'imprégnation est importante parce que, Pacôme, depuis votre départ, vous en êtes à votre troisième texte sur votre départ de Facebook. Donc,
absolument. Ah oui, non, mais je n'ai pas du tout caché le fait que au moment où je partais de Facebook, c'était le moment aussi où je pouvais commencer à réfléchir sur Facebook. Mais ça, c'est après. Encore une fois, moi, je donne de leçons à personne. Hein. Je veux vraiment surtout pas avoir l'air de dire aux gens, faites ci ou faites pas ça. Moi, je le fais pour moi. Hein. Je le fais pour moi d'abord parce que rester sur Facebook avec un usage limité, ce serait comme un alcoolique qui se sèvre. En buvant un verre de vin par jour. Mm-hmm. Ça ne marche pas.
Non.
Il y a un moment où on retombe de toute façon parce que c'est une passion, parce qu'il y a de l'amour. Et comme il y a de l'amour, comme il y a forcément de l'amour qui est en jeu, beaucoup d'amour, que ce soit de l'amour pour les autres ou de la demande d'amour, il faut prendre du recul. Et prendre du recul, c'est pour moi l'occasion aussi d'y réfléchir. Donc du coup... je ne sais pas si je vais faire ça pendant très longtemps, mais je trouve intéressant d'y réfléchir parce que l'air de rien, ça m'a occupé pendant 12 ans. Et je pense qu'il y a, je crois, 2,5 milliards de personnes. Combien ? 2,5 milliards de personnes ?
2,7.
Ouais. Je veux dire, ça, c'est la plus grande société secrète du monde.
Elle n'est pas très secrète. Thibault ?
Elle n'est pas très secrète, c'est vrai. Non, mais c'est une... C'est une société invraisemblable. Mmh. Donc, du coup, s'extraire de ça, c'est très compliqué. Mmh. Enfin, ce n'est pas compliqué à un niveau individuel, mais c'est compliqué à un niveau mental. C'est-à-dire que là, ce serait presque plus la psychologie des alcooliques anonymes, peut-être, où on doit réfléchir quand même sur sa pratique pour savoir exactement pourquoi, à un moment, on s'est dit « ça déconne ». Pour moi, ça déconne. Pour ce que j'en vois, ça déconne. Je suis ivre, mais pas dans la bonne manière, c'est-à-dire que je dégueule.
C'est pas de l'ivresse joyeuse. Ouais.
C'est plus de l'ivresse joyeuse, parce qu'il y a eu une ivresse joyeuse. Parce que pour moi, il y a eu une expérience de pensée extraordinaire de Facebook. Et pas que de Facebook, mais Facebook, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Et pour moi, c'était dans la juxtaposition et dans l'effet de montage, dans l'effet de scrapbook ou de cut-up. Vous voyez, quelque chose qui relève de l'aventure moderne et qui est une pensée qui fonctionne par juxtaposition d'éléments qui ont l'air complètement hétérogènes et qui viennent rentrer en collusion et qui produisent à ce moment-là une grande image. Et donc, c'était avoir une news, en même temps un poème, en même temps un gif animé. Ça, c'est des trucs que je trouvais formidables, cette espèce de manière de passer du coq à l'âne, et c'est pas le coq à l'âne, ça faisait quand même, il y avait un effet de synchronicité de l'ensemble qui produisait du sens. Mais cet élément-là, il avait un prix, si vous voulez, c'était un espèce de superbe cadeau du diable, c'est-à-dire tu vas trouver finalement ton paradis en termes de pensée, mais il aura un prix qui est ton enfer en termes de pensée, qui est le débat infini. Mais le débat infini, les débats qui s'étalent sur une semaine, 10 jours.
Avec les sous-débats.
Les faux débats.
Les sous-débats.
Et les sous-débats. C'est-à-dire le poste qui est sur une info qui va durer 3 jours. Mais alors le débat, il va durer 1 mois. Ouais. 1000 commentaires. Et vous avez 1000 notifications. Non mais c'est quelque chose.
C'est pas tout le monde, c'est parce que vous aviez du succès. Mais Thibault,
c'est pas que chronophage, c'est psychophage. Oui, c'est-à-dire qu'on devient fou, on devient comme un seul schizophrène avec toutes les voix en même temps.
Thibault.
Oui, vous disiez, Paco, vous avez écrit que quand on quitte en histoire d'amour, quand on quitte quelqu'un ou quand on quitte Facebook, il faut le faire 2 fois.
Oui.
Donc la première fois, vous dites qu'il faut quitter donc l'objet du désir, et ensuite il faut quitter quoi, le souvenir. Il faut cesser de se raccrocher. Comment c'est quoi cette deuxième fois?
Le besoin. Le besoin qui reste toujours, et surtout les pulsions qui sont accrochées à ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis parti de Facebook il y a un peu moins d'un mois maintenant que je suis parti mentalement de Facebook, dans le sens où fondamentalement je crois que je continue à penser à travers les schèmes positifs comme négatifs de l'expérience. Un autre point important, je suis désolé, c'est un peu encore un pas de côté par rapport à ça, mais on va arriver aussi après une synthèse de la question du pas de côté. et là, je pense que je ne suis pas seul dans le cas, c'est l'amour et les réseaux sociaux. C'est à partir du moment où, finalement, les réseaux sociaux deviennent des pourvoyeurs de relations amoureuses. Et quand je dis relations amoureuses, ce n'est pas juste des plans Tinder, c'est-à-dire c'est des choses qui se font sur du long terme, avec des allers-retours, avec des déceptions, avec des attentes. Il y a toute une érotomanie du réseau social qui se met en place. C'est-à-dire qu'on voit forcément l'autre continuer à exister, l'autre qui vous a quitté ou qu'on a quitté, et on se pose la question. Ça, j'ai vu ça un nombre incalculable de fois, et puis ça m'est arrivé, pas que moi je me sois posé des questions de ce genre, parce que je fais très attention à ma santé mentale, contrairement à l'apparence que j'ai. Je m'interdis l'interprétation paranoïaque. Ou
mais alors, c'est quoi la question? Attendez, c'est quoi la question? Ouais.
Alors, en gros, c'est-à-dire, moi j'ai vu ça, par exemple, dans des phénomènes de rupture. Après, vous postez des choses, et la personne croit qu'elles lui sont encore...
Destinées.
Ah. Et donc... Il y a un truc où c'est sans fin, parce qu'on coexiste sans fin. Et après, la solution, c'est quoi? C'est de se bloquer. Et vous voyez la folie, c'est-à-dire on ne peut pas bloquer les gens dans la vraie vie. Si on les croise dans la rue, on les croise dans la rue. Par contre, on n'est pas en coexistence permanente avec des personnes qu'on a aimées et avec lesquelles il y a une difficulté de synchronie. Dans le sens où on peut s'éloigner de rien, on ne s'éloigne pas de sa famille, on ne s'éloigne pas de ses amis, on ne s'éloigne pas de ses ennemis, on ne s'éloigne pas des célébrités, on ne s'éloigne pas de l'actualité. C'est aussi la question de comment on peut arriver à faire un véritable pas de côté. Et moi, j'essaye de voir, et c'est une proposition, mais c'est une proposition même liée à l'actualité en général, parce qu'on est dans le phénomène du réseau social, c'est que c'est un incroyable intensificateur du moment présent, incroyable intensificateur de l'opinion ou du commentaire du moment présent. On est déjà des accros à l'actualité. On est déjà tous plus ou moins des accros en France, peut-être, oui.
Ça renforce. Mais alors justement, juste pour rebondir, vous disiez que ce qui vous avait exaspéré dans les derniers temps, c'était les 70 millions d'épidémiologistes qui s'exprimaient sur Facebook, vos amis critiques de BD qui avaient une idée très précise sur Didier Raoult ou sur l'hydroxychloroquine.
C'est un exemple, c'est pas forcément eux, d'ailleurs.
Oui, c'est un exemple, mais ce que je voudrais, c'est qu'on aborde maintenant le thème des réseaux sociaux et du Covid. la manière dont les réseaux sociaux ont absorbé les informations sur la pandémie, comment ils se sont fait le relais d'abord du microbiologiste marseillais Didier Raoult, qui était vu un peu comme un martyr, comme un ostracisé, puis des autres médecins dits rassuristes, hein, c'est-à-dire ceux qui relativisent la pandémie. Et Didier Raoult lui-même a amorcé sa popularité beaucoup avec sa chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'IHU, donc l'Institut hospitalier dans lequel il exerce. Et d'ailleurs, voici ce qu'il disait de tout ça en mai 2020. On regarde.
Je pense que les médias traditionnels sont en train de rentrer en conflit frontal avec les réseaux sociaux et YouTube, par exemple, comme chaîne d'information. Moi, je dois dire que la plupart du temps, les informations sont de meilleure qualité sur YouTube que sur les médias. Donc il y a une révolution à faire, il y a une mise en danger des médias traditionnels qui se traduit aussi par beaucoup de violence parce qu'elle est mise en danger. Donc effectivement, sur un podcast, moi j'ai trois fois la notoriété du journal Le Monde, je comprends que le journal Le Monde ne m'aime pas, vous voyez, parce que moi ça ne coûte rien, ça ne me rapporte rien, et donc je deviens un rival incontrôlable, si vous voulez, dans l'information et la clarté ou la réalité de l'information, parce que je n'ai pas d'a priori du tout dans la vie. Donc on voit que les médias traditionnels, souvent, ça m'est arrivé à moi d'ailleurs, identifient comme des fake news, les news qui ne sont pas relayées par les médias traditionnels, mais les médias traditionnels ne relaient pas plus d'informations exactes que les réseaux sociaux. Donc on est dans un tournant historique aussi de la distribution de l'information qui, elle aussi, explique des conflits qui me dépassent de très loin.
Olivier Ersteit, est-ce que ça vous inspire, ce propos de Didier Raoult?
Ça m'inspire plein de choses. Non, mais en elle-même, la figure de Didier Raoult est une figure qui est composite, c'est-à-dire que vous avez raison, hein, que c'était parti effectivement de sa chaîne YouTube. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment commencé à parler de Didier Raoult, non pas à partir de sa chaîne YouTube, mais à partir du moment où des médias télévisuels ont commencé à reprendre des extraits de sa chaîne YouTube, ce qui a multiplié par 100 000, enfin, je n'ai pas les chiffres, mais ce qui a littéralement fait exploser l'audience de cette chaîne YouTube, où effectivement les gens qui avaient regardé BFM, je ne sais plus quelle chaîne a été la première à en parler, se sont précipités sur la chaîne YouTube, et à partir de là, on a vu ce qu'on voit, encore une fois, structurellement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ce mouvement de va-et-vient entre les médias classiques et puis les médias Internet et du web. Après, le discours de Didier Raoult en lui-même, c'est un discours qui est fondamentalement et littéralement paradoxal, puisqu'il tient, là dans l'extrait que vous avez passé, c'est l'archétype du discours complotiste, mais il le tient au nom ou dans une posture qui est celle
de la vérité,
opposé du complotisme, c'est-à-dire la posture scientifique. Et toute l'ambivalence de Didier Raoult, et ça, quelque part, son talent médiatique, c'est d'arriver en permanence à jouer simultanément sur les deux tableaux. Ce qui fait que vous avez des gens dans les groupes de soutien, notamment sur Facebook, il y en a un dont on a beaucoup parlé, qui regroupe quand même là aussi, il faut se faire une idée de l'échelle, 500 000 personnes qui interagissent tous les jours, enfin tous les jours, pas tous, mais en tout cas, qui se retrouvent. 500 000 personnes, c'est plus qu'une métropole comme Toulouse ou comme Lyon. Un demi-million d'individus fédèrent autour de la figure de Didier Raoult, et vous avez des gens qui, effectivement, sont dans ce groupe-là parce que ce qu'ils voient de Didier Raoult, ce qui les intéresse, c'est la posture scientifique. C'est le scientifique son remède miracle dont on ne veut pas parler, et une part équivalente de gens qui ne sont là que parce qu'ils n'en ont rien à faire du scientifique, mais parce que ce qui nous intéresse, c'est le discours complotiste que tient le scientifique Raoult en expliquant que tout le monde est contre lui, et ainsi de suite. Donc, à lui seul, il cristallise, en fait, ce qui est le meilleur et le pire des médias, qu'ils soient Internet ou pas Internet, c'est-à-dire une posture de discours qui est insaisissable parce qu'elle est conclue sur deux pans diamétralement opposés qu'on peut faire cohabiter, le complotisme et l'objectivité scientifique.
Exact, exact, c'est très très contradictoire. Et alors sur ce groupe Facebook dont vous parlez, donc c'est Didier Raoult versus le coronavirus, donc presque 500 000 abonnés effectivement, on a trouvé des objets assez étonnants. Je voudrais juste qu'on regarde ce fan qui se filme en train de peindre ou qui est filmé en train de peindre le chercheur Jean-François Toussaint, qui est un rassuriste entre guillemets aussi, hein, de ceux qui relativisent la pandémie. Alors voilà, on le voit et on comprend dans le post qu'il en a fait d'autres, des peintures. On en a trouvé cette vidéo assez fascinante. Enfin, comme tellement, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a quelque chose de très religieux là, hein, dans la démarche.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que comme je pense. Vous avez compris, j'arrive plus, en tout cas, à opposer les médias et les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'ai vraiment fait, enfin, je pensais comme ça pendant très longtemps. Et en fait, d'une certaine façon, ce qui s'est trouvé, c'est qu'il y a une étrange, alors on pourrait dire c'est un complot de complot, une étrange complicité entre, mais structurelle, on va dire, pour ne pas en faire un truc individuel, ouais, entre ce qu'on appelle les grands médias. Et puis ensuite, les réseaux sociaux ou les médias alternatifs. Grands médias qui ont besoin de médias alternatifs à la fois comme nourriture d'actualité, comme repoussoir et aussi comme marchepied.
Oui, pour se promouvoir.
Ouais. Pour se promouvoir, pour dire, regardez, nous quand même, on est un peu plus sérieux. Alors ensuite, bon, sur la question du geste religieux. Bon, ça, c'est très, très humain. Hein. Moi, ça me fait penser aux peintures que les gens font, des stars, où ils faisaient, quand j'étais enfant, on voyait ça dans les brocantes, des peintures amateurs faites à partir de, je ne sais pas quoi, des frères Bogdanov, par exemple, vous voyez. Il y avait les frères Bogdanov ou Chantal Goya. Il y avait ces espèces de petites peintures qui avaient dû être faites le dimanche. Et puis, la personne où était décédée ou l'avait laissé traîner quelque part quand elle avait déménagé, les gens récupéraient et mettaient ça dans une espèce de vente. Et puis, il y a des personnes qui les collectionnent au bout d'un moment ou en gardent quelques-unes parce que ça les fait beaucoup rire de voir ces peintures-là et qui sont une forme de l'admiration. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'en effet, les héros... Enfin, je pense que ce serait beaucoup plus difficile de trouver une peinture de ce genre faite sur Pascal Praud, en effet.
Par exemple.
Je crois qu'on n'en verrait pas beaucoup. Donc, ce que ça veut dire surtout, c'est que les médias savent aujourd'hui qu'ils ont un rôle... extrêmement paradoxal de gens qui ne sont pas aimés et tiennent en tant que non aimés. Et donc, en fait, on est dans une situation bizarre où c'est le... si on est dans des logiques... Ça, c'est parce qu'il y a les couvertures derrière Olivier qui me fait penser. Des logiques de comics américains. Il y a les médias traditionnels fonctionnent comme des super-vilains. Des super-vilains. Et ensuite, il y a toujours besoin de nouveaux super-héros.
Les vilains, c'est les méchants. Hein.
C'est les méchants.
Ouais.
Les méchants super-puissants.
Ouais.
Et alors, les médias alternatifs produiraient une suite de super-héros qui doivent toujours recombattre contre ces super-vilains. Mmh. Et en fait, les super-vilains ont leur nécessité, ou en tout cas, les uns et les autres se jouent l'un l'autre comme ça. Et donc, du coup, c'est une situation qui est assez étouffante. Enfin, pour moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est vraiment de pouvoir penser ces événements avec d'autres outils. Alors c'est pour ça que je fais mon pas de côté radical, c'est-à-dire le pas de côté du pas de côté. Donc j'ai amené GB, enfin j'ai amené, c'est chez moi, donc j'ai pas amené, j'ai pris les livres de GB avec moi, le pas de côté, et surtout L'être aux survivants, c'était très intéressant parce que pendant le premier confinement, là, dans un deuxième confinement, c'est un livre dans lequel, en fait, c'est une bande dessinée, dans lequel les familles sont enfermées, il y a eu une espèce de problème écologique radical, et tous les gens sont dans des trous, sont dans des espèces d'abris anti-atomiques, et en fait, on a des messagers qui passent, et les messagers qui viennent et qui leur racontent des histoires.
Et alors, attendez, quel rapport avec la télé parce que là,
parce que les médias et les médias alternatifs sont comme ces messagers.
Ah, ok.
C'est-à-dire qu'on est dans, lors du premier confinement, et là, on rentre dans un deuxième qui va être plus souple, donc on sera un peu moins dans des trous. L'ensemble de la réalité, ou presque, était vu à travers ces écrans, que ce soit l'écran de la télé ou l'écran interactif du média. Mmh. Et donc, c'était comme « donnez-nous des nouvelles de dehors, s'il vous plaît ». Donc, forcément, l'intensité était encore plus grande. Donc, du coup, sur la question de l'hydrochloroquine, qui devrait emmerder tout le monde si ce n'était pas une histoire aussi grave que le coronavirus, et si on n'était pas tous confinés, ça emmerderait tout le monde. Je veux dire, c'est la première fois que des scientifiques deviennent des sujets d'engueulade.
Et alors, précisons,
on n'avait jamais vu ça.
D'ailleurs, précisons quand même que, vite, rappelons, pour aller dans votre sens, que les fameux rassuristes qui font les choux gras des réseaux sociaux, ils ont aussi beaucoup fait les choux gras des télés, hein, qui semblent...
Oui, oui, bien sûr. Voilà,
et donc, on peut vous voir... Avez là, on voit là sur ces photos, on peut voir sur ces captures, pardon, les dits rassuristes, c'est-à-dire Perron, Toussaint, Toubiana, qui s'expriment absolument sur les réseaux sociaux. Et alors, je voulais juste montrer un autre petit symptôme de l'adoration que les rassuristes ont suscité ou de l'intérêt sur les réseaux sociaux. C'est un YouTuber, on a trouvé ça intéressant, qui... fait des compilations, des punchlines, des phrases fortes qui ont été prononcées par les fameux médecins rassuristes sur les plateaux. Il s'est vraiment pris de passion pour le Covid, ce YouTuber. Vous allez voir un peu le début d'une compilation qu'il lance comme ça sur sa chaîne.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement sur les professeurs Perron, Toussaint, Toubiana, Recadre, tout le monde. Aujourd'hui, je vais passer très très vite sur l'intro car la vidéo est beaucoup plus longue encore une fois que je l'avais prévu. Mais ça va vraiment cartonner, alors faites chauffer les pop-corns, restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir encore un énorme scandale. Ça, c'est du très lourd passé encore une fois sous le silence médiatique.
On s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires.
Nous étions une société de gens libres, il faut maintenant être une société de citoyens solidaires. Comme si la solidarité et la liberté étaient par essence antinomiques et contradictoires.
On nous prépare à la dictature sanitaire qu'on observe aujourd'hui.
L'intervention d'Emmanuel Macron hier soir et ses mesures vont-elles dans ce sens ou est-ce qu'elles sont raisonnables face au Covid ?
Bien, disons que la raison a déserté la table de décision.
Thibaut.
Olivier, donc là, on voit clairement un YouTuber qui est en train de réadapter son discours et sa production vidéo au thème d'actualité. Et là, quand il y a une agrégation comme ça de contre-discours, est-ce que ça a le potentiel d'être viral, selon vous ? Est-ce que c'est taillé sur mesure pour la viralité ?
Oui, oui, c'est taillé sur mesure sur la viralité pour plein de raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est un exercice de compilation et que les compilations, c'est le principe du bêtisier. Hein, c'est-à-dire, pas par hasard, que quand on n'a rien à dire, on met des bêtisiers. Donc, quand on n'a pas grand-chose à dire, on produit des compilations. Mais au-delà de ça, surtout, ce qui paraît intéressant et qui fait l'écho aussi avec l'échange précédent avec Pacom, c'est que la vidéo là, que vous venez de montrer, elle est typique, au-delà de la compilation, de quatre biais cognitifs majeurs qui alimentent les phénomènes de viralité. Alors, je vais essayer de faire clair et simple, si je peux, et court. Mais le premier, c'est l'effet de ce qu'on appelle l'effet de surconfiance. C'est-à-dire le fait que les gens qui n'ont pas de compétences sur un sujet donné ont tendance à surestimer leurs compétences, alors même que ceux qui ont une compétence établie, ont en permanence tendance à la minorer et à la sous-estimer. Ce qui fait que sur les plateaux télé, c'est différent, mais en tout cas, dans les réseaux sociaux, logiquement, du coup, ce sont les gens qui sont souvent les moins compétents qu'on entend le plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le phénomène qui est connu et qui est la dissonance cognitive, ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que le discours de ce YouTuber est évidemment perméable à des communautés qui sont déjà convaincues qu'on leur manque, que l'hydrochloroquine sauve des vies, qu'on veut nous faire entrer dans un état totalitaire, etc., etc. Et le troisième biais, donc, c'est ce qu'on appelle, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est l'écoute croyante, c'est-à-dire que même quand on vous a démontré que votre opinion était non avérée, non véridique, parce que la vérité, chacun a sa vérité, mais la véracité, c'est des vérités. Ce sont des vérités partagées collectivement. Donc, même si on vous démontre que c'est faux, et à longueur de plateau télé, vous avez des gens qui tiennent, d'ailleurs, c'est les mêmes personnes, qui tiennent des discours tout à fait antagonistes. C'est-à-dire, ça ne les gêne pas de venir là, Didier Raoult, je sais de quel épidémiologiste, expliquait encore récemment que. Enfin, il disait exactement l'inverse. On lui montrait la vidéo de ce qu'il avait dit trois mois auparavant. Et il disait, oui, mais Bon, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, je suis passé à autre chose. Donc ça, c'est les groupes croyants. Et puis, la dernière chose, qui me paraît là aussi vitale pour mieux comprendre ce qui se joue sur les réseaux sociaux, c'est un biais qu'on appelle le biais de disponibilité. C'est-à-dire qu'on raisonne dans ces milieux un petit peu enfermants et enfermés. On raisonne d'abord à partir des informations qui nous sont immédiatement disponibles pour produire du raisonnement. Et quand vous êtes sur le groupe Facebook qui rassemble 500 000 personnes autour de Didier Raoult, des gens qui font des portraits peints, qui ont des débats sans fin sur l'hydroxychloroquine, chaque fois que vous produisez un argument, chaque fois que vous essayez d'établir un élément de débat, ce qui est immédiatement disponible, ce que vous pouvez tout de suite mobiliser, ce sont la plupart du temps des arguments qui sont déjà biaisés, complotistes, orientés, etc. Donc on ne peut pas s'en sortir. C'est comme une espèce de gang qui nous attrape. On a les deux pieds, on patauge dans cette espèce d'environnement déraisonnable, souvent complotiste, pas tout le temps. Il se passe aussi de belles choses sur les réseaux sociaux, mais ce n'est peut-être pas l'objet aujourd'hui. Mais quand on a les deux pieds dans la glu de ces théories, ce sont ces théories qu'on mobilise en premier simplement parce qu'elles sont disponibles, pas tellement parce qu'on en est convaincu finalement, parce qu'on y croit, mais parce qu'on les a cognitivement à portée de clic et à portée de mobilisation. Et du coup, on appelle le hamster dans sa roue, on contribue à alimenter en permanence les mêmes effets, les mêmes chambres d'écho.
Et en même temps, vous expliquez que dans un groupe comme celui de Didier Raoult contre le coronavirus, un groupe de 500 000 personnes, vous expliquez que les groupes ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des endroits sur Facebook où il faut faire consensus. Vous expliquez qu'à l'intérieur d'un espace privé où les valeurs, où il y a des valeurs communes qui rassemblent les gens dans ce groupe, à l'intérieur même du groupe, il y a des logiques de dissensus qui sont créées toujours pour créer plus d'engagement dans les plateformes. C'est ça ?
C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça qui est, cette logique est à la fois fascinante et folle. C'est-à-dire que le principe d'un fonctionnement démocratique, on va dire, c'est en termes politiques, c'est de mettre ensemble des gens qui ne pensent pas la même chose, de gérer du dissensus, et à partir de ce dissensus, d'essayer de produire une forme de consensus, d'acceptabilité, de gouvernementabilité. À l'intérieur des groupes Facebook, à l'intérieur des architectures techniques toxiques des réseaux sociaux en général, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire on s'appuie sur des communautés de gens qui pensent la même chose, la plupart du temps, ou à peu près, on appelle les effets de bulles de filtre. On met ensemble des gens qui ont grosso modo les mêmes opinions et les mêmes croyances. Mais une fois qu'on a mis ces gens-là ensemble, il ne se produit rien puisqu'ils pensent la même chose. Donc on va travailler pour les obliger à produire des effets de dissensus.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire quand on dit on va travailler à... Moi, je trouve ça un peu abstrait. Quand on va travailler à les obliger à produire du dissensus, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, quand je suis sur le groupe Didier Raoult versus coronavirus? Qu'est-ce qui fait que je vais être amené à créer du dissensus?
Eh bien, c'est-à-dire que quand on regarde les interactions à l'intérieur du groupe de Didier Raoult, les interactions qui sont les plus visibles, celles qui mobilisent le plus justement de commentaires, de likes, de partages, etc., ce sont les interactions dissensuelles, c'est-à-dire qu'on met en avant à l'intérieur de ce groupe homogène des éléments qui vont faire que vous allez vous déchirer, non pas pour expliquer que Didier Raoult est un charlatan, puisque vous êtes d'accord sur le fait qu'il ne l'est pas, mais vous allez vous déchirer sur la posture des médias qui traitent Didier Raoult comme un charlatan.
Et c'est ça qui va remonter, c'est ça qu'on va voir visuellement, hein. C'est ces engueulades-là qui vont apparaître, c'est ça ?
Bien sûr, parce qu'il y a tellement d'interactions, c'est-à-dire il y a plusieurs, parfois à certains moments de la journée, vous avez plusieurs milliers de posts qui sont publiés à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, même si vous faites ça à temps complet, vous ne pourrez pas lire les centaines de posts et les dizaines de commentaires qui tombent sur chacun d'entre eux. Donc, l'algorithme, il organise pour vous présenter les commentaires qui vous disent être les plus pertinents ou les posts qui vous disent être les plus intéressants. Or, il se trouve que systématiquement, ces posts et ces commentaires-là sont ceux qui vont, pour mobiliser de l'interaction, vous présenter des informations dissensuelles, c'est-à-dire qui génèrent effectivement de l'animosité, de l'engueulade, des postures très arquées, très marquées, alors qu'au départ, encore une fois, je le répète, normalement, le ciment de ce groupe-là, c'est qu'on est tous d'accord, les 500 000 personnes sont tous d'accord pour dire que Didier Raoult est un génie, qu'il faut tous qu'on ait des tatouages de Didier Raoult sur le corps, que l'hydroxychloroquine est un remède miracle.
Et donc là, vous êtes en train de dire que l'architecture des réseaux sociaux travaille à défaire ce que la gouvernance politique, démocratique, au quotidien, contribue à faire.
Oui, c'est exactement ça. Moi, c'est l'idée que je défends en tant que chercheur dans mes différents ouvrages. C'est cette idée que Facebook, d'abord, a un projet politique, ou en tout cas doit être traité comme une entité politique, parce qu'une communauté de 2,7 millions d'utilisateurs, ce n'est pas le radeau de la Méduse. Il y a forcément un cap, il y a un gouvernail, et il y a des gens qui ont des ambitions, des idées, des projets. Et d'ailleurs, Zuckerberg lui-même ne s'en cache pas du tout. Hein. Facebook est une infrastructure sociale, qu'il veut jouer justement sur la dimension politique, mais que le modèle économique de la plateforme, et son insincérité fondamentale, le fait de jamais savoir si c'est public ou privé, fait que ce projet politique, il ne peut à la fin qu'être toxique. C'est-à-dire que même quand il permet de produire des interactions vertueuses, même quand il permet, on l'a vu avec les Gilets jaunes, à des gens légitimement d'accéder à des espaces de parole dont ils sont par ailleurs privés dans les médias, les journaux, etc., au final, il finit par travestir totalement la sincérité de la parole de ces gens-là et par les amener à déployer, à ne montrer d'eux pour leurs interactions qui relèvent du complotisme, du discours de haine, et de choses comme ça.
Parce que vous parlez d'un projet politique, mais c'est un projet commercial plutôt, non ? Le but, c'est de faire un maximum d'argent, c'est qu'il y ait des interactions qui produisent des vues, qui amènent les annonceurs. Enfin, excusez-moi d'être aussi simpliste, mais c'est ce qui m'apparaît comme le plus évident.
Oui, c'est un projet politique, commercial. C'est une plateforme commerciale privée. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Mais encore une fois, le Zuckerberg lui-même veut installer explicitement sa plateforme dans le champ politique. Et il a un projet politique pour Facebook. Et si on parle aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des élections… Le projet politique de Facebook, c'est aussi pour le dire très rapidement, mais c'est tout ce qui est véhiculé par ce qu'on appelle l'idéologie libertarienne, pas libérale, mais libertarienne, c'est-à-dire la capacité d'une plateforme technique, de se substituer à l'État. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que finalement l'État est superfétatoire et que tous les problèmes peuvent être adressés dans le cadre d'une architecture technique maîtrisée avec des solutions techniques à tous les problèmes sociétaux. En gros, c'est ça. Et en gros, derrière, il y a l'idée, effectivement, que si on arrive à mettre ça en place, on va petit à petit pouvoir arbitrer techniquement tout ce qui relève traditionnellement de la vie et de l'appareil régalien de l'État, c'est-à-dire ce sont des algorithmes, en tout cas des paramétrages techniques, derrière les algorithmes, il y a toujours des gens, mais en tout cas, ce sont des programmes informatiques qui vont décider d'attribuer telle ou telle ressource, telle ou telle allocation. On voit ça dans la banque avec le crédit, sur Facebook, c'est l'algorithme, le programme qui va déterminer votre propre visibilité à l'intérieur du groupe ou la visibilité de vos contenus. Et du coup, derrière, ce qui est le sens, le sel même de la démocratie, on perd finalement, paradoxalement, cette capacité de rendre public. C'est-à-dire que la démocratie, c'est un exercice de rendu public. Et Facebook, par ses interactions qui sont à la fois semi-publiques et semi-privées, il étouffe, il met sous le manteau, il dissimule, il travestit des interactions qui devraient être soit tout à fait privées, soit tout à fait publiques, mais qui ne peuvent pas se satisfaire de cet entre-deux. Comme le disait Pacombe, on ne sait jamais vraiment si… on est dans le privé, dans le public.
Thibault, dernière question de Thibault.
Oui, il y a aussi ce paradoxe-là, c'est que vous disiez que Facebook est libertarien dans l'âme, et ça vient ça se heurter avec une conception de la liberté d'expression, pour en revenir à ce qu'on disait au début, une conception de la liberté d'expression française et européenne qui n'est pas libertarienne, qui considère que tout n'est pas bon à dire. Et donc on en revient à ce qu'on disait au début, c'est pour ça que Facebook ne peut pas modérer comme nous on voudrait qu'ils modèrent, parce qu'ils n'en ont aucune envie.
Bien sûr, ils n'en ont pas envie, puis encore une fois, ce n'est pas dans leur intérêt. Moi, il y a aussi une thèse qui me semble tout à fait légitime et que je défends, qui est la thèse que, que les discours de haine ont un potentiel spéculatif immense qui intéresse ces plateformes. Et donc, Facebook a supprimé tous les discours de haine, parce que c'est pour des discours d'incitation à la haine. Ce sont ces discours qui ont bien ou ont mal, d'ailleurs, font réagir. Quand vous avez quelqu'un qui balance une saloperie antisémite ou sexiste ou raciste sur Facebook ou sur Twitter, c'est ça qui génère de l'interaction. Alors, il y a plein de gens qui réagissent pour dénoncer, il y a plein de gens aussi qui réagissent pour renchérir. Et ça, la plateforme, elle se bloque. Ce qui l'intéresse, c'est que des gens…
Et encore une fois, ça attire des annonceurs et donc ça fait de l'argent, hein. Parlons de manière très concrète.
Bon, alors, il y a tout ça.
Donc, deux questions simples, messieurs, pour conclure. On est plongé dans une période éprouvante. Le confinement va nous pousser à regarder encore plus nos écrans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on boycotte Facebook notamment, hein, qui est dans un... Vous dites que c'est un projet libertarien, donc finalement, on adhère à un projet libertarien qui veut se substituer à l'État. C'est quand même assez terrifiant. Moi, je me dis qu'on était mieux dans le web d'avant, hein, celui des blogs et des sites qui nous apportaient beaucoup. Donc, est-ce qu'on les boycotte et est-ce qu'on milite pour que le modèle économique de ces réseaux sociaux ne soit pas assis sur cette viralité de la colère et sur ce projet libertarien? Enfin, pour conclure, qu'est-ce qu'on dit à nos asinotes, à ceux qui nous regardent et pendant 2 mois, on va être enfermés, 1 mois, malheureusement, sans doute plus. Qu'est-ce qu'on leur dit sur les réseaux sociaux?
Moi, je n'aime pas du tout l'idée de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Moi, je peux vous dire ce que je vais faire.
Ah, mais ça, on l'avait compris, par contre.
On avait compris, oui. Je ne vais pas rouvrir mon compte. Bon, pour commencer.
Promis.
Non, mais... oui. Quoi, sauf si j'ai un flingue sur la tempe, parce que quelqu'un est rentré chez moi.
Donc vous, Paco, vous n'allez pas rouvrir Facebook, okay.
Non, moi, ce que je crois, c'est que ce qui est important, c'est je ne sais pas si c'est inventé le terme, mais c'est en tout cas de trouver son ailleurs. De trouver son ailleurs pour pouvoir arriver à sortir d'une situation qui devient de plus en plus étouffante, qui est le présent immédiat, et le présent immédiat vécu comme prison. C'est-à-dire, si vous comprenez, je crois que Facebook aurait été beaucoup moins éprouvant pour moi cette année s'il n'y avait pas eu le confinement. Mmh. Et je n'aurais peut-être pas craqué, en fait. Mmh. Je n'aurais peut-être pas craqué parce qu'il aurait moins incarné un dehors.
Mmh. Et je pense il faut se trouver un autre ailleurs, il faut se trouver un autre dehors pour supporter ce deuxième confinement.
Par exemple, mettons que si on est en prison, je ne suis pas sûr que ça soit les... vous savez, moi j'avais parlé avec un type qui avait fait de la prison, il avait dit ceux qui s'en sortent jamais, c'est ceux qui passent leur journée à se branler et à bouffer. Il faut avoir des principes très forts de survie. Mmh. Et donc, la rigueur, l'étude, rentrer dans des choses assez difficiles, en fait, pour pas se laisser tomber,
pour se tirer vers le haut. Ouais.
Donc voilà, exactement. Mm-hmm. Donc en gros, dans des périodes extrêmement difficiles comme celle qu'on a vécue en 2020, c'est au contraire le grand œuvre, ce qui peut nous sauver, si on peut dire comme ça. En tout cas, pour moi, c'est l'idée de travailler sur si c'est pas un ailleurs, en tout cas un meilleur. Et donc du coup, pour les personnes dont le but dans leur vie, et je les comprends très bien, n'est pas d'écrire des bouquins, ça peut être de voir ce qu'ils auraient voulu voir et qu'ils n'ont jamais pris le temps de voir, de lire ce qu'ils voulaient, et puis d'étudier ce qui leur semble vraiment vital d'étudier dans leur vie. Vous savez, tous les gens qui, à un moment, décident d'apprendre une langue étrangère, par exemple, c'est peut-être le moment. Je veux dire, Internet, ce que ça a aussi d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas uniquement les interactions avec votre groupe, votre réseau social. C'est aussi qu'il y a quand même une porte sur la quasi-totalité des choses.
L'Internet de la
des cours
visite.
En ligne, des tutoriels pour si on doit faire du bricolage.
Bon, alors, cela dit, tout le monde n'a pas beaucoup de temps, même pendant le confinement, il y en a plein qui vont travailler, mais enfin, les week-ends sont un peu plus, effectivement, disponible. Olivier, votre conseil à nos asinotes sur les semaines qui viennent, qui sont éprouvantes?
Alors le conseil, d'abord acheter des livres parce que on va en avoir besoin, et puis il y en a sur le sujet dont on parle, d'excellent et de pas cher.
Notamment de vous,
Et blague à part, dans ce bouquin, à la fin, le dernier chapitre qui explique qu'il y a 3 leviers sur lesquels il faut jouer en même temps. C'est l'éducation, la régulation et l'opinion. C'est-à-dire que pour que les choses changent, qu'elles changent efficacement, il faut qu'on ait des gens qui soient de plus en plus éduqués sur ces questions-là, et c'est en train de se faire grâce à l'enseignement, grâce aux médias, etc. Il faut qu'on ait ensuite de la régulation qui intervienne au niveau des États, parce que là aussi, il y a des choses qui se passent, qui se jouent. Le RGPD, tout ça sont des initiatives qui sont vertueuses, même si elles sont contrariées par plein de choses. Et puis le dernier point, c'est l'opinion. C'est-à-dire que si on arrive à jouer en même temps sur ces 2 leviers, l'opinion, régulation...
J'ai pas compris.
L'opinion, c'est-à-dire l'opinion publique. C'est-à-dire que quand ces plateformes reculent, quand elles adoptent des comportements non pas vertueux, mais un peu moins vicieux, c'est toujours sous l'effet de l'opinion. Il n'y a que ça qui les fait. Les États sociaux n'y arrivent pas. Les citoyens tout seuls n'y arrivent pas. Et juste quand elles sentent, ces plateformes, qu'il y a une fragilité dans l'oignon, qu'elles perdent des points et donc potentiellement des clients, qu'elles reculent, qu'elles adoptent des modes de fonctionnement plus vertueux. Donc le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'expliquer aux gens comment elles fonctionnent. Et puis, c'est que les États aussi se saisissent de ces questions et arrivent à un moment donné à trancher ce qui doit être un espace privé qui relève de la sphère privée et ce qui est un espace délibératif public. Mais on ne peut pas avoir des écosystèmes de 2,7 milliards d'individus qui sont capables eux-mêmes de dire s'ils sont sincèrement privés ou insincèrement.
Juste un tout petit peu, une toute petite parenthèse. Je voulais rebondir rapidement, mais pour rebondir et refermer sur ce qu'avait dit Olivier et qui continue un peu à dire à ce moment-là, qui était par rapport à la question de l'écologie de la parole. Ce qu'il y avait de plus beau dans les réseaux sociaux au moment où j'étais arrivé, c'est que j'avais l'impression que les timides commençaient à parler, que c'est la place des timides. Et finalement, c'est quand même les grandes gueules qui ont pris le dessus. Ouais. Et en fait, je dirais s'il y a une espèce d'enseignement qu'on pourrait essayer de commencer à mettre en place, c'est d'apprendre à entendre. C'est-à-dire d'encourager les gens à parler plus fort, plutôt d'encourager les gens à écouter plus bas. Et donc, du coup, être dans un rapport de communication où ce n'est pas toujours celui qui parle le plus longtemps. Évidemment, c'est paradoxal de vous dire ça, alors que je suis un mec très bavard.
Hein, j'allais le dire, hein,
fort. Mais bon, vous avez compris. Pas celui qui parle le plus, le plus longtemps, le plus fort, le plus machin, ou qui a les propos les plus extrêmes, qui doit être le porte-voix dans la totalité de la communauté. La sagesse serait que c'est au contraire la personne qui réserve sa parole ou qui est capable d'avoir une économie du langage ou un soin du langage plus grand, on devrait tendre l'oreille. Et si on pouvait commencer à apprendre à tendre l'oreille, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvriraient qui sont encore fermées.
Alors tendre l'oreille, ça me paraît être une bonne conclusion. Cette émission est terminée. Bon courage à vous toutes et vous tous. Et puis si vous n'allez pas sur les réseaux, venez sur Arrêt sur Image et dites à vos amis de vous abonner. Nous, on va essayer de nourrir le débat. On va essayer de vous accompagner au mieux pendant toute cette période. Voilà. À la semaine prochaine et merci à vous tous.